ADN, l'atelier du désir novateur sur Radio Campus, sur le DAB+, et 106,6 MHz en modulation de fréquence, de même qu'à www.campuslille.com sur la toile. L'atelier du désir novateur vous propose 3 heures d'émission sur la Commune de Paris. Cette semaine, premier épisode, la défaite de Badinguet et l'envol de la Commune.
Napoléon III déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. Il ne sait pas encore qu'il signe la fin de son règne. La guerre sera sans merci. L'armée impériale française ira de défaite en défaite. Le 2 septembre 1870, c'est la chute de Sedan qui entraîne la capitulation de Napoléon III. L'empereur est fait prisonnier avec 80 000 hommes. 500 canons sont pris par l'armée prussienne qui progresse vers Paris. À l'annonce de la défaite de Sedan, le peuple de Paris manifeste devant le palais Bourbon. La déchéance du Second Empire est acclamée. À l'hôtel de ville, Jules Favre proclame la République. Un gouvernement de la défense nationale est constitué sous la présidence du général Trochu. Mais les événements vont s'accélérer car les Prussiens sont aux portes de la capitale. Le 19 septembre commence le siège de Paris. Il allait durer 138 jours. Le siège de Paris va être cruel pour les habitants de la capitale. Durant cet hiver rigoureux, alors que les défaites dans l'Est se succèdent, on meurt de faim dans les faubourgs. Tout ce qui est mangeable est mangé. On va jusqu'à tuer les pensionnaires du parc zoologique.
Non, jamais sur cette terre on ne vit en vérité pareille calamité. Ni plus affreuse misère que celle que l'on subit sous le siège de Paris. Paris, cette ville aimable, qui donc ose la siéger? Serait-ce cet étranger qu'avec un accueil affable elle admettait dans son sein? Oui, c'est lui, son assassin. C'est d'accord avec l'infâme, celui qui livra Sedan. Bonaparte le tyran, ce gredin sans cœur ni âme, que la Prusse avec ardeur accomplit notre malheur lors du fameux plébiscite. Sans tous ceux qu'on vote, et oui, on n'aurait pas aujourd'hui cette guerre tant maudite. Paris qui n'y est pour rien, à cette heure en souffre bien. Quand on pense que nous sommes privés de relations et de communication avec le reste des hommes du monde, pour nous le bout ne va pas jusqu'à Saint-Cloud. Quand le ballon nous emporte dans tous nos départements, des lettres pour nos parents, jamais ils ne nous rapporte de réponse, ce qui fait qu'on en est très inquiet. Nous n'avons de leurs nouvelles qu'au moyen de nos pigeons, mais des Prussiens les faucons les chassent à tire d'aile. De d'ici, il en revient d'eux, on le voit, c'est très chanceux. L'aspect de toutes nos rues est lugubre car hélas, on a supprimé le gaz, même avant une heure indue. Et les magasins, le soir, font vraiment du mal à voir. Et nos braves ménagères attendent en pâte aux gens, souvent 3 heures durant, pour obtenir d'ordinaire un pot-au-feu de cheval, ce brave et noble animal. C'est en pleurant qu'on le mange, et on n'en a pas toujours. Il arrive bien des jours que par force on s'arrange d'un plat qui n'est pas très gros, de riz cuit avec de l'eau. Il est des êtres rapaces, j'en rougis, mais des marchands exploitent les pauvres gens. Jugez où va leur audace, ils vendent de mauvais choux jusqu'à des 6 francs 10 sous. Et bien de tous ces ravages, nous souffrons sans murmurer. Loin de nous désespérer, ils augmentent nos courages. On ne vaincra pas Paris tant que nous serons unis.
Sursaut patriotique. Les recrues des bataillons de la garde nationale vont élire leurs officiers et ont fait venir des ports de l'Atlantique les batteries de marine et leurs artilleurs.
De Normandie et de Bretagne, de Lorient, Brest ou Cherbourg, tous sans trompette ni tambour, nous partions pour faire campagne. Nous laissions des êtres chéris, pourquoi ce refrain vous l'explique? Les marins de la République défendaient les forts de Paris. Comme le vieux de la Méduse, nous ne crèverons pas de faim. Nous mangerons jusqu'à la fin, puisqu'hélas ici-bas tout s'use. Du lard, du pain noir et du riz, un vrai menu démocratique. Les marins de la République défendaient les forts de Paris. Mais il faut se mettre à l'ouvrage, trop de repos cause de l'ennui. Le Prussien donne jour et nuit, ses artilleurs font grand tapage. Au canon de ses mal appris, les nôtres lancent la réplique. Les marins de la République défendaient les forts de Paris. Nous essayons maintenant sortir, on frappe, on tue, on est blessé. On repousse, on est repoussé, chacun veut gagner la partie. On croit surprendre, on est surpris, ça donne vraiment la colique. Les marins de la République défendaient les forts de Paris. On capitule, il faut se rendre, morbleu plutôt 100 fois la mort. Si le Prussien est le plus fort, nos forts qui viennent donc les prendre. Capituler, as-tu compris, vieux loup de mer, pose ta chique. Les marins de la République défendaient les forts de Paris. Jetons un regard en arrière, avant d'abandonner l'effort. Nous allons regagner nos ports et ma foi vogue la galère. Laissons jaser les beaux esprits et répondons à leurs critiques. Les marins de la République défendaient les forts de Paris. Allô, amis, versez à boire. Je viens de payer ma rançon. Faites chorus à la chanson qui nous rafraîchit la mémoire. On fait simplement son décrit par ce refrain patriotique.
Les marins de la République défendaient les forts de Paris.
Fin octobre, les mauvaises nouvelles s'accumulent. À la capitulation du maréchal Bazaine, à Metz, succède la défaite de l'armée française dans les combats du Bourget. Le 31 octobre, un mouvement insurrectionnel éclate dans plusieurs villes du Midi et à Paris. Des bataillons bellevillois, conduits par Gustave Flourens, s'emparent momentanément de l'hôtel de ville. En novembre et décembre, plusieurs tentatives de sortie pour briser le siège de la capitale se solderont par des milliers de morts. Il en sera de même le 10 janvier pour la sortie de Buzenval. Ce sont les gardes nationaux qui constituent l'essentiel des forces. Et malgré les premiers succès de l'offensive, les généraux ordonnent la retraite. L'exaspération face à la conduite de la guerre atteint son paroxysme. Portés par des rumeurs de capitulation, d'autres manifestations insurrectionnelles échoueront, comme celle du 22 janvier 1871, alors que les Prussiens bombardent Paris.
Il avait une moustache énorme, un grand sabre et des croix partout,
partout, partout.
Mais tout ça, c'était pour la forme, et ça ne servait à rien du tout,
rien du tout.
C'était un fameux capitaine qui tenait avant tout à sa peau,
à sa peau.
Un jour, il voit que son sabre le gêne, aux ennemis, il en fait cadeau.
Quel beau cadeau!
Là, le cirque fiche ton camp, il s'en va sans guerre. Dans deux temps et trois mouvements, sans devant, derrière. Là, le cirque fiche ton camp, il s'en va sans guerre. En deux temps et trois mouvements, pas dingue, fiche ton camp. Père la mère, pas dingue, à dessous tout paquet. Père la mère, pas dingue, et le petit badinguet. Comme diplomate, c'était un maître. Il en remontrait au plus malin.
Au plus malin!
Mais il ne le faisait point paraître pour pas humilier ses voisins,
ses voisins.
La politique, c'est une roulette. Rouler, on ne sort jamais de là,
jamais de là.
Mais lui roulait sa cigarette, puisqu'il ne pouvait rouler que ça,
rouler que ça.
V'là le cirque, fiche ton camp, qui s'en va sans guerre. En deux temps et trois mouvements, sans devant, derrière. V'là le cirque, fiche ton camp, qui s'en va sans guerre. En deux temps et trois mouvements, badingue, fiche ton camp. Père la mère badingue, à dessous tout le paquet. Père la mère badingue, et le petit badingue. Il était d'une force incroyable. Il inventa sans canon,
sans canon.
Mais le bruit lui faisait une peur du diable. Puis ça troublait ses digestions,
digestions.
Un jour pourtant, jour héroïque, il vit un pétard éclater,
éclater.
Mais il en eut une telle colique que tout le monde en fut ennuyé, fut
ennuyé.
V'là le cirque, fiche ton camp, qui s'en va sans guerre. Dans deux temps et trois mouvements, sans devant, derrière. V'là le cirque, fiche ton camp, qui s'en va sans guerre. Dans deux temps et trois mouvements, badingue, fiche ton camp. Père la mère badingue, à dessous tout paquet. Père la mère badingue, et le petit badingue. Enfin, pour finir la légende de ce monsieur qu'on croyait César.
Croyait César.
Ce grand homme de contrebande, v'là qu'on ne trouve plus qu'un mouchard,
qu'un mouchard.
Chez ce bonhomme-là, tout était louche. Et la morale de ce boniment,
boniment,
c'est qu'étant porté sur sa bouche, il devait finir par ses dents,
par ses dents.
là le cirque fiche ton corps, t'en vas en guerre, en deux temps et trois mouvements, sans devant derrière. Là le cirque fiche ton corps, t'en vas en guerre, en deux temps et trois mouvements, badingue, fiche ton camp. Père la mère badingue, à tes sous du paquet, père la mère badingue et le petit badingue.
Radio Campus 106,6 www.campuslille.com sur internet.
L'atelier du désir novateur vous propose 3 heures d'émission sur la Commune de Paris. Cette semaine, premier épisode, la défaite de Badingue et l'envol de la Commune.
Enfin, le 26 janvier, l'armistice est signé, à Versailles. Les conditions de la capitulation sont humiliantes. Bismarck exige des dommages de guerre, 5 milliards francs or, la cession de l'Alsace-Lorraine et l'organisation d'élections législatives qui auront lieu le 8 février. Pour le peuple de Paris, il s'agit d'une véritable trahison. Le 29 janvier, les Allemands prennent les forts entourant la capitale. Le 8 février, les élections donnent une large majorité aux ruraux et aux monarchistes. À Bordeaux, où l'Assemblée nationale est réunie, Adolphe Thiers est élu, chef du pouvoir exécutif de la République française. Il signera avec Bismarck les préliminaires de paix le 26 février. Ultime humiliation enfin avant de laisser l'Assemblée nationale siéger à Versailles, Bismarck exige une parade des troupes allemandes sur les Champs-Élysées. Le 2 mars, les Parisiens couvrent la ville de drapeaux noirs.
J'entends les fous parler de résistance, de lutte à mort, de patrie et d'honneur. Mon ventre seul exige une vengeance. Sous le nombril, j'ai descendu mon cœur. Libre manant de rester patriote et de mourir sous les feux ennemis. Moi, j'aime mieux la sauce aux échalotes. Pour un beefsteak, messieurs, rendons Paris. Moi, j'aime mieux la sauce aux échalotes. Pour un beefsteak, messieurs, rendons Paris. Vive la paix, la France est aux enchères. Demain, bourgeois, vous pourrez recoinfrer. Bismarck attend au château de Ferrières que dans Paris, Thiers lui dise d'entrer. Favre griffonne un dernier protocole. Trochu renonce à son plein compris. À l'ombre et vent tourne la casserole. Pour un beefsteak, on va rendre Paris. À l'ombre et bon, tourne la casserole. Pour un beefsteak, on va rendre Paris. Que font à moi l'Alsace et la Lorraine? Dans ces pays, je n'ai ni champ ni bien. Que le Prussien nous les laisse sous les prennes. Je m'en bats l'œil, car je n'y perdrai rien. Plus que Strasbourg, ma table m'intéresse. Metz ne vaut pas une aile de perdrix. Et puis tout ça fait bouder ma maîtresse. Pour un beefsteak, messieurs, rendons Paris. Et puis tout ça fait bouder ma maîtresse. Pour un beefsteak. biftec, messieurs, rendons Paris. Allons, c'est dit, bonbonne, fais toilette, au salon bleu, remets les rideaux neufs. Et toi, Manon, va battre l'omelette, grâce aux Prussiens, nous mangerons des œufs. Je veux demain recevoir à ma table trois Bavarois et je veux qu'on soit gris. Vive la paix, la patrie est au diable, pour un biftec on a rendu Paris. Vive la paix, la patrie est au diable, pour un biftec on a rendu Paris. Pour un biftec, on a rendu Paris.
J'attends une belle enfant.
Une belle enfant.
J'appelle, j'en parle au passant. Suis-je sans elle
un agonisant,
je vais sans semelle, sans rien sous la dent. Quand je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Transu quand il gèle, s'agite souvent. Dans la cervelle des mots et du vent. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Bétail, on m'appelle, esclave, on me vend.
Esclave, on me vend.
La guerre est cruelle, l'usurier pressant. Ah, je l'attends. L'un suce ma moelle, l'autre boit mon sang.
L'autre boit mon sang.
Ma misère est telle que j'en suis méchant. Je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Ma misère est telle que j'en suis méchant. Adieu donc la belle, guérir ton amant. Je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps.
La condition ouvrière est pénible pour tous ceux qui n'ont que les bras pour survivre. Germinal et Les Misérables se vivent chaque jour dans le Paris des faubourgs populaires. Les enfants travaillent à partir de 8 ans. Jusqu'à 15 heures par jour. Chez les ouvriers considérés comme une classe dangereuse, les insurrections des canuts de Lyon et les journées de juin 48 sont encore vivantes dans les esprits. Durant le siège, les clubs révolutionnaires se multiplient. On y dénonce l'incompétence des généraux, on y parle de révolution sociale, de république universelle et d'égalité. Nombreux sont les ouvriers à avoir rejoint l'Association internationale des travailleurs fondée en 1864 par Karl Marx. Beaucoup parmi eux se retrouveront élus de la Commune et les idées socialistes portées par Proudhon, l'auteur de la formule « La propriété, c'est le vol » font leur chemin. Il en est de même pour les idées de l'infatigable révolutionnaire Auguste Blanqui. Veille du 18 mars, Thiers fait emprisonner Blanqui. Il placarde dans tout Paris une déclaration.
Les hommes mal intentionnés sous prétexte de résister aux Prussiens, se sont constitués les maîtres d'une partie de la ville. Ils montent la garde, vous forcent à la montée par ordre d'un comité occulte. Que les bons citoyens se séparent des mauvais, qu'ils aident à la force publique au lieu de lui résister. Parisiens, vous nous approuverez de recourir à la force, car il faut à tout prix que l'ordre, condition de votre bien-être, renaisse entier, immédiate, inaltérable.
Le lendemain, ces généraux tenteront de reprendre le canon que les Parisiens ont mis en lieu sûr, comme ici sur la butte Montmartre.
Dans l'eau qui se levait, on entendait le tocsin. Nous montions au pas de charge, sachant qu'une armée en bataille nous attendait au sommet. Nous pensions mourir pour la liberté. Nous, morts, Paris se fut levé. Les foules sont quelquefois l'avant-garde de l'océan humain. Toutes les femmes étaient là, montées en même temps que nous, je ne sais comment. Entre nous et l'armée, les femmes se jettent sur les canons, les mitrailleuses. Les soldats restent immobiles. Tandis que le général Lecomte commande feu sur la foule, un sous-officier sortant des rangs crie « Crosse en l'air !» Les soldats obéissent. La révolution était faite.
À l'annonce du coup de force de Montmartre, se dressent dans toute la cité des barricades où flotte le drapeau. Les généraux Lecomte et Thomas sont fusillés. Les canons sont déplacés, mis sous surveillance de la population et de la garde nationale. Les bataillons de cette garde nationale, issus de toutes les couches sociales, se sont fédérés et ont élu un comité central quelques jours plus tôt. Alors que les partisans de Thiers se sont regroupés à Versailles, c'est le début de la Commune, un espoir qui va vivre durant 73 jours.
L'Atelier du désir novateur vous propose 3 heures d'émission sur la Commune de Paris. Cette semaine, premier épisode, la défaite de Badinguet et l'envol de la Commune.
Sans souci, ma foi je m'en flatte. Le drapeau que j'ai choisi est rouge écarlate. De mon mon sang, c'est la couleur qui circule dans mon cœur.
Vive la commune, enfant, vive la commune.
Oui, le drapeau rouge est bien le plus bel emblème de l'ouvrier citoyen, c'est pourquoi je l'aime. L'étendard du travailleur sera toujours le meilleur.
Vive la commune, enfant, vive la commune.
Je n'aime point les méchants, ni les bastonnades, mais j'aime tous les enfants ou mes camarades. Lorsque je joue avec eux, nous chantons le cœur joyeux.
Vive la commune, enfant, vive la commune.
La commune, savez-vous, petit téméraire, ce que c'est écouter tous, c'est de vivre en frère. Et lorsque nous serons grands, nous combattrons les tyrans.
Vive la commune, enfant, vive la commune.
Afin d'affirmer les droits de la République, il nous faut vaincre les rois et toute la clique. Plus de bon Dieu, de Jésus, des prêtres, il n'en faut plus.
Vive la commune, enfant, vive la commune.
Quand les temps seront venus, aucune famille n'aura plus d'enfants pieds nus, traînant dans la guenille. Tout le monde aura du pain, du travail et du bon vin.
Vive la commune, enfant, vive la commune. Vive la commune, enfant, vive la commune.
Le 28 mars, la proclamation de la commune fut splendide. Les baïonnettes s'inclinaient devant les drapeaux rouges qui, par faisceau, entouraient le buste de la République. Tout fut grandiose dans ce prologue de la commune, dont l'apothéose devait être la mort. Pas de discours, un immense cri, un seul. Vive la commune !
Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur maintes effroi, emblème éclatant du courage, toujours il fit pâlir les rois.
Le voilà, le voilà, regardez, quand il fièrement il bouge, c'est l'ennui au combat préparé.
Sur les barricades, par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier.
Le voilà, le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est compris au combat préparé.
Commune, il flotte encore à la tête des bataillons, et chaque barricade arbore ses longs plis taillés en haillons.
Le voilà, le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est compris au combat préparé.
L'étendard du prolétaire, des opprimés soit l'éclaireur, à tous les peuples de la terre, porte la paix et le bonheur.
Le voilà, le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est le prix au combat préparé.
Superbe drapeau
rouge, rouge puissant de l'ouvrier,
Appel du comité central de la garde nationale aux électeurs parisiens, le 25 mars 1871.
Citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables.
Défiez-vous également des beaux parleurs, incapables de passer à l'action. Ils sacrifieront tout à un beau discours, un effet oratoire ou un mot spirituel. Méfiez-vous également de ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère.
Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, résolus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages. Le véritable mérite est modeste, et c'est aux électeurs à choisir leurs hommes et non à ceux-ci de se présenter.
Citoyens, nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire. Vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres.
Les hommes que les électeurs parisiens enverront siéger à la commune sont d'une grande diversité professionnelle. Nombre d'entre eux sont issus du comité central de la garde nationale fédérée, tel Gabriel Ranvier, artisan décorateur élu du 20e arrondissement, Émile Duval, ouvrier fondeur, élu du 13e, ou encore Eugène Varlin, ancien relieur devenu contremaître, élu du 6e arrondissement. Les premiers décrets donnent le ton, remise totale des loyers, moratoire des échéances commerciales, suivront l'abolition des privilèges des officiers publics et la gratuité des actes administratifs. La séparation de l'Église et de l'État et la confiscation des biens des congrégations religieuses interviendront dès le 2 avril.
La vieille cité française existe une race de fer, dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est un père enfin qui travaille des jours et quelquefois des nuits. C'est la canaille. Eh bien j'en suis.
C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souffler rime rêveur. Un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sort dont on ne sait pas où, toujours avec esprit bourraille, se riant de votre mépris. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons, quand sonne sa 20e année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
Il fredonne et la Marseillaise, nos pères, les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que les trangleurs ont dit depuis. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux, les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris. C'est la canaille, Eh bien, j'en suis.
Enfin, c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots. Mais qu'aujourd'hui, la vieille France les appelle sous les drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire à leurs ennemis: c'est la canaille, c'est la canaille, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
Pendant qu'à l'hôtel de ville, la commune vote ses premières décisions, à Versailles, Thiers reconstitue une armée avec la complicité des Prussiens qui libèrent les prisonniers français. Parmi les chefs militaires de la commune, Duval, Eudes et Flourens décident alors une sortie pour briser l'armée de Versailles. Mais sans préparation suffisante ni la confidentialité nécessaire.
Comme ils étaient fort entêtés quand ils avaient leur volonté, nos vaillants pères, les gars à poil de ce temps-là, voulurent qu'on les appelât les volontaires. Au pays où l'on fait du vin, où la vie poitrinaires, les hommes sont si bien bâtis que tous, un jour grands et petits, sont volontaires. Mal équipés en gros sabots, ils coururent le sac au dos à nos frontières. Marseillaise au cœur et du courage à faire peur des volontaires. On ne voyait point de musards, point de poussifs, point de traînards dans les ornières. La liberté donnait du nerf. Des pieds et des jarrets de serre aux volontaires. Liberté, c'était en ton nom qu'il se faisait chair à canon et de civière. À ton appel, ma liberté, ça fout.
Par la suite, certains ont voulu sortir, effectivement, pour aller à Versailles essayer de disperser l'armée qui se reconstituait là-bas. Mais il était peut-être un peu tard et c'est ce qu'on a appelé la sortie d'avril. Donc, dans un parfait désordre, la garde nationale est sortie en plusieurs colonnes pour se diriger vers Versailles. Et là, malheureusement, on n'a pas pu faire véritablement front aux soldats de l'armée régulière. Duval s'est fait prendre au plateau de Châtillon et fusillé sur l'ordre du général Vinoy. L'autre chef aimé du peuple, Gustave Flourens, s'est fait prendre à Châtillon. Et il a été assassiné.
Gustave Flourens, il est très intéressant, c'est un intellectuel qui a enseigné, comme son père, au Collège de France, et puis qui a quitté sa situation fortunée pour venir justement à Belleville, où il logeait rue des Pyrénées dans un deux pièces minable. Et donc il est devenu finalement le héros de Belleville. Alors qui était Flourens? C'était un révolutionnaire du style 19e siècle garibaldien. Donc il s'était intéressé à toutes les révoltes en Europe. Et puis il est revenu à Paris lorsque le 4 septembre. Et tout de suite, il a voulu faire la République universelle. Et bientôt, la Commune.
a été très aimé donc dans le 20e. Et on le suivait.
Vous écoutez Radio Campus, 106,6 MHz en modulation de fréquence. www.campusligue.com sur Internet.
L'atelier du désir novateur vous propose 3 heures d'émission sur la Commune de Paris. Cette semaine, premier épisode, la défaite de Badinguet et l'envol de la Commune.
La sortie des 2 et 3 avril est donc un échec sanglant. Versailles, en l'occurrence le marquis de Galiffet, fusillera les prisonniers fédérés. La Commune répondra aussitôt par un décret sur les otages qu'elle détient.
Considérant que le gouvernement de Versailles foule ouvertement aux pieds les droits de l'humanité comme ceux de la guerre, qu'il s'est rendu coupable d'horreurs dont ne se sont même pas souillés les envahisseurs du sol français, la Commune de Paris décrète toute exécution d'un prisonnier ou d'un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera sur le champ, suivie de l'exécution d'un nombre triple des otages retenus.
La Commune repoussera l'application de ce décret jusqu'à son dernier jour. Les premières défaites des communards vont conforter l'offensive versaillaise dès le 11 avril. Asnières, Courbevoie et Boulogne sont conquises, Paris est cerné. Au nord et à l'est, par les Prussiens, à l'ouest et au sud, face aux communards, par l'armée versaillaise.
L'insurgé, son vrai nom c'est l'homme, qui n'est plus la bête de Somme, qui n'obéit qu'à la raison, et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève en rouge à l'horizon. Devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. On peut le voir aux barricades, descendre avec les camarades, riant, blaguant, risquant sa peau, et sa cruelle décidée s'allume au splendeur de l'idée, au reflet pourpré du drapeau. Chargé. À la bourgeoisie écœurante, il ne veut plus payer la rente. Combien de milliards tous les ans, c'est sur vous, c'est sur votre viande qu'on dépèse un tel dividende. Ouvriers, mineurs, paysans, devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. Il comprend la planète qui se lamente sous le joug individuel. Il veut organiser le monde pour que de sa mamelle rôde coule un bien-être unique.
devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé.
Dans Paris assiégé, la vie s'organise. Après la fuite des fonctionnaires pro-versaillais, les élus de la commune remettent en marche les normes administration parisienne, comme les postes ou les chemins de fer. La commune votera l'interdiction des amendes sur les salaires dans les ateliers et administrations, la suppression du travail de nuit des ouvriers boulangers, la restitution des objets de moins de 20 francs mis en gage au Mont de Piété. La commune désigne des élus à la tête de 9 commissions. Le Hongrois Léo Frankel s'occupe du travail, Francis Jourde des finances, Eugène Proto de la justice et Édouard Vaillant de l'enseignement. Cette dernière commission doublera le traitement des instituteurs, instaurera l'égalité avec les institutrices et travaillera à la promotion de l'école laïque.
Citoyens, membres de la commune, nous demandons énergiquement que des écoles professionnelles et des orphelinats laïques soient immédiatement établis en place des écoles et orphelinats des ignorantins. Nous voulons pour tous l'instruction et l'État. Que les champs ne soient plus engraissés de sang, ni la boue des trottoirs pleine de prostituées.
Du renoncement, le moi n'existe plus en elle, son être est tout au dévouement, son être est tout au dévouement. Pour ce cœur vaste et secourable, ivre de solidarité, le seul air qui soit respirable, c'est l'amour de l'humanité. Le seul air qui soit respirable, c'est l'amour de l'humanité, c'est l'amour de l'humanité. On la condamne, elle défie son juge féroce et pourri. Qu'importe à qui se sacrifie, le poteau noir de Satori, le poteau noir de Satori. À ses bourreaux, près de la tombe, elle parle fraternité. Que lui fait la mort, elle tombe pour l'amour de l'humanité. Que lui fait la mort, elle tombe pour l'amour de l'humanité. Pour l'amour de l'humanité. On l'emprisonne comme au bagne, elle refuse la douceur. La proxénète est sa compagne, la prostituée est sa sœur, la prostituée est sa sœur. De la voleuse, elle est complice, aux froides sœurs de charité. Elle parle de la justice pour l'amour de l'humanité. Elle parle de la justice pour l'amour de l'humanité. Pour l'amour de l'humanité.
Ce n'est pas nous qui nous sommes rencontrés, ce sont nos solutions.
Au nord-ouest, les combats se fixent à Neuilly, défendus par le général polonais Dombrowski. Comme lui, nombreux sont les étrangers à avoir rejoint la cause de la commune, polonais, russes, allemands, italiens, belges, hongrois.
considérant que le drapeau de la commune est celui de la République universelle, considérant que toute cité a le droit de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la servent, la commission est d'avis que les étrangers peuvent être admis.
La liberté d'expression permet à l'effervescence révolutionnaire de se répandre. Cependant, le 18 avril, on interdira les journaux pro-versaillais. De grands journalistes comme Félix Piat siègent à la commune.
Les journaux sont plutôt très nombreux sous la commune. Alors, il y en a absolument de toutes sortes. Bon, le plus célèbre, naturellement, est celui de Vallès. Et ce cri du peuple était vendu à 100 000 exemplaires, c'est dire. Mais c'était, on va apprendre à l'autre bout de la hiérarchie. Le journal Le Prolétaire s'est mis à contester justement ces journaux qu'il trouvait trop commerciaux, comme Le Cri du Peuple, il y en avait d'autres. Et il a parlé des fracasseurs de phrases. Car Le Cri du Peuple, on peut y trouver pas mal de bobards militaires, pas mal de fausses informations qui finalement trompaient le peuple. Alors que par exemple, ces petits journaux de quartier étaient plus à la base et plus à l'écoute du peuple.
Pendant que les caricaturistes s'en donnent à cœur joie, le peintre Gustave Courbet est élu à la Fédération des artistes. D'autres peintres célèbres, tels Corot, Daumier ou Manet, rejoindront la cause communaliste.
On voulait tout à la fois, art, science, littérature, découverte. La vie flamboyait. On avait hâte de s'échapper du vieux monde.
La commune représente un moment où la parole se libère, si bien que les clubs se mettent en place, parce qu'ils trouvent la commune élue un peu trop mollasse, comme ça a été dit, et donc ils s'emparent des églises. Les élus n'aiment pas du tout ça. Et eux qui allaient dans les réunions publiques avant, ils ne vont quasiment pas dans les clubs. Parce que ça, ces clubs, c'est ce qu'on a appelé la démocratie directe. Donc ils sont interpellés de la part de publics assez nombreux. Si on prend l'exemple du Club des Prolétaires, qui s'installe dans deux églises dans le 11e arrondissement, à Saint-Ambroise et Sainte-Marguerite, bon, on voit là 2000, 3000 personnes. Un public qui est dominé en nombre par les femmes qui sont terriblement intéressées à la commune et qui avaient des choses à dire. Elles commencent même à se faire nommer dans les bureaux, etc.
Chaque fois que parteront notre sang coule sur le monde, c'est toujours pour quelques tyrans que cette rose est.